Rendez-vous de la Francophonie is an annual celebration that promotes the French language, heritage, and its numerous cultural expressions. It runs March 2nd to 22nd, 2017 in communities across Canada. The RVF series, which showcases the diversity, duality, and dynamism of Canada's Francophone communities, is brought to you by La Fondation Canadienne pour le Dialogue des Cultures, the National Campus and Community Radio Association, Canadian Heritage, and this station. Please stay tuned for the next half hour for this week's edition of Rendez-vous de la Francophonie. Visit ncra.ca/RVF for more information on the series.
Bonjour, je m'appelle Oumar Salifou et je suis un immigrant d'origine rwandaise et nigériane. I came to Canada as an immigrant when I was very young, and who I am now as an adult has been shaped by both my nations of origin and Canada's culture. When describing Canada's cultural identity, the analogy of a cultural mosaic is often used. The mosaic means that many cultures and peoples come to this country, and unlike our American neighbors who've established a melting pot, Canadians come together coexisting with their cultures while being linked together by the common bond of being Canadian. Today's story is about members of my family, specifically my uncle Ephraim Bouki and his son Gadi Khan. Their journey to Canada represents a glimpse into what many refugees go through and the unique circumstances involved with Francophone integration in Edmonton, Alberta.
Spring, but he teaches like night classes and stuff. So he still has a job.
That's sweet.
Yeah, yeah. Uh-huh. Yeah, but what about you? You gotta tell me about your story.
My story and what?
What, like, let's start from the beginning.
Oh,
like,
you don't know my story?
Coming to Canada.
Oh, okay. So, wait, do you even know it?
I don't think so.
Okay, so I was born in Congo, Kinshasa, like DRC, Democratic Republic of Congo. My dad is from Rwanda. My mom is from Congo. And with a big family, 12 kids. What else? I'm not going to give you, like, the huge details because then, like, it just revolves a bunch of wars, like, in 1994, the Rwandan genocide, and then the repercussions of that.
I want to hear those details, man.
There's details. Okay.
For the details of that story, I visited Ephraim Bouki, Gadi Khan's father, who's originally from Rwanda and came to Canada as a refugee from the Democratic Republic of Congo in 2000. We got coffee at his local Tim Hortons and spoke at length in his car about his life as a Francophone refugee, avoiding war and coming to Canada as a single father for the very first time.
Just medium coffee, two medium coffee regular. Yes.
Il faut toujours quelque chose qui vous pousse pour que vous puissiez aller au-delà de vous-même. Bon, à 17 ans, j'étais réfugié. Je devais terminer l'école secondaire à 20 ans. Donc pendant ces 3 ans, j'étais obligé de rentrer toujours au Rwanda sur un camion chargé de marchandises. C'est comme ça le transport. Hein. Tu vois un camion avec des pommes de terre. Et toi, tu te mets au-dessus. Et puis la pluie et tout ça. Parce que tu arrives à la barrière, on te fait descendre et puis on te regarde et puis on te tape, les militaires du gouvernement qui nous avaient chassés. On te tape et puis on te fait asseoir, etc. On te brime, tu subis des brimages, des insultes, etc. Et après, ils te relâchent. Mais un jour, ils n'ont pas voulu nous relâcher. Ils ont relâché le... Ils ont dit au chauffeur de s'en aller. Entre la frontière et l'école, il y avait 40 kilomètres. Lorsque le chauffeur est parti, on nous a donné nos valises et on a dit, partez, à pied. Ok, on est paré avec beaucoup de chances de nous faire tuer en cours de route parce que les Tutsis n'étaient plus là, étaient indésirables. Bon, ben Dieu nous a protégés. J'ai terminé l'école secondaire. Et puis, c'est pas la tentation que j'ai eue
d'aller travailler au Rwanda, parce qu'il y avait mon petit frère qui était encore là. J'ai voulu le protéger, je suis allé travailler, enseigner dans son école. Encore une guerre civile. On m'a cherché, on m'a attrapé, on m'a tapé dans les articulations. J'ai pu fuir et me cacher. Et puis de là, je suis parti au Congo. J'ai travaillé là-bas en tant qu'enseignant pendant 3 ans. Donc j'avais travaillé au Rwanda pendant une année, enseignant, 3 ans à Bukavu. À la fin, il y a eu une guerre civile au Congo. Il y avait des militaires et des mercenaires qui ont attaqué l'est du Congo, qui ont pris la ville de Bukavu pendant 3 mois. Moi, comme je ne pouvais pas fuir pour aller au Rwanda, la seule issue, c'était d'aller au Rwanda. Je ne pouvais pas rentrer au Rwanda. Et puis, ils avaient miné tout le tour de la ville. Seulement, la sortie, c'était simplement le Rwanda. Donc, je ne pouvais pas aller au Burundi, ni aller quelque part ailleurs. J'étais obligé de rester avec certains de mes amis. Alors, lorsque les mercenaires se sont retirés de Bukavu, on avait donné l'ordre de tuer tout le monde. Tout le monde qui était là était considéré comme collaborateur des mercenaires. Nous avons eu la chance. On ne nous a pas tués par miracle. Bon. De là, je suis allé à l'université. J'ai commencé l'université. Ça, c'est aussi une circonstance qui m'a poussé à aller à l'université.
I started my interview with Ephraim by asking him what his life was like when he was 21, the age his son is now. The answer I received was a survey of conflict and instability involved in his life. Fleeing his home country of Rwanda on the back of a truck and living in hiding because persecution of Rwandans in the area was rampant. All of this led to him settling down in the neighboring country of Congo and starting his university education, studying to become a pharmacist.
Lorsque j'ai terminé à Kinshasa, j'ai eu du travail, j'ai bâti ma famille. Et j'ai passé 30 ans à Kinshasa. Et 25 ans de carrière. 25 ans, plus de 25 ans de carrière. La carrière de pharmacien, c'est une carrière de premier plan. Hein. C'est partout dans. Ici au Canada, en Afrique, etc. J'avais un rêve de faire un laboratoire pharmaceutique, je l'avais mis au point. J'avais commencé à faire des médicaments depuis une dizaine d'années, c'était florissant, très florissant. C'était vraiment oh là là. Bon, et j'avais des projets, j'avais acheté des machines. Bon. Tout ça est tombé à l'eau, je suis venu comme ça. Mais je suis arrivé ici à 57 ans, j'avais programmé à 60 ans, je ne travaille plus. Parce que je voulais mettre simplement en marche ce laboratoire-là et puis me retirer, me reposer. Bon, j'étais vraiment bien, j'avais décidé d'aller en retraite parce que j'avais les moyens à 60 ans. Donc, et à 57 ans, il y a eu. Donc en 94, il y a eu le génocide du Rwanda. Et puis en 98, il y a eu Mobutu qui a été chassé par Kabila avec l'aide des Rwandais, des soldats, des militaires rwandais. Mais lorsque, à la libération, il y a eu des conflits entre les gagnants.
Although Canada, the United States, and other nations have pledged to increase their assistance, many say it is just too little, too late.
While Kabila's troops entered the city, they've shown no reluctance to shoot looters as well as Mobutu loyalists. And these supposedly elite troops were only too happy to don the white headbands, which signify loyalty to Kabila.
In a convoy that drove directly onto the ship, docked at the Congolese port of Pointe-Noire. With Mobutu on board, the scene was at last set for the talks that may well end with his departure from office, a declared aim of the rebels.
Throughout the city, civilians and soldiers have been killed for their past actions. Just how many is unclear. At least 200 people were killed over the weekend, most by stray bullets, some were looters.
A week after the refugee crisis erupted, this is still the most efficient part of the emergency operation, the removal of corpses.
Alors, le président en exercice, qui a remplacé Mobutu, il a chassé les Rwandais. Les Rwandais, lorsqu'ils sont arrivés au Rwanda, ils sont retournés au Congo pour, cette fois-ci, se battre contre ce président-là. Et nous avons été les cibles. Nous qui avions, moi qui avais 30 ans, 40 ans de Congo, j'ai été considéré comme un rebelle contre le nouveau gouvernement. Parce que je suis rwandais d'origine. On nous avait même donné la nationalité congolaise, mais tout ça, ça ne valait rien. Et on nous a pourchassés. Quiconque était attrapé à Kinshasa, on lui mettait on le tuait, quoi. C'était la loi. Je me suis caché, grâce à Dieu. Et j'ai pu, par la Croix-Rouge, donc je me suis caché pendant 18 mois, une année et demie.
For 18 months, Ephrem hid from persecution in Congo, hiding in septic tanks, on roofs, and in caves. Only one person knew his location to bring him a plate of food and water to drink. During this time, the Canadian government was soliciting with the Congolese government to hand over the people who were being persecuted.
Après, on a tué tout le monde que l'on rencontrait à Kinshasa. Jusqu'à ce que les États-Unis et le Canada sollicitent le gouvernement de leur donner les gens qui n'ont pas été tués.
There were many instances where my dad was about to get killed. Literally, when they were going through houses, they were taking everything to like toilet seats and everything, and looking through all the walls, like puncturing it and just leaving it in chaos, honestly. And my dad was a pharmacist at the time, and then he told me a story about how the soldiers were coming through the house, and then he kind of had like this attic where he kept all the documents and stuff like that, patients and all the products and so on. And then when he was building the house, he had thought, oh, let's make a ladder or like stairs that stayed there. But then, I guess he says by God's intervention, he's like, he kind of just said, no, let's not get stairs or anything, just get a ladder. And then luckily, he was up there in the attic when the soldiers came, and I think he had kicked the ladder to the side, and then they didn't think of taking, oh yeah, there's probably someone in the attic or something like that. So he like dodged. His life was about to flee him at many times, but he kept going, and yeah, and then he, till this day, he's a man of very big faith, because honestly, there's no way that like this is pure coincidence that we're here in Canada, one of like the best countries in the world, and where there is, I know, there's hope and there's freedom, and then you can basically do anything you want and strive, and if you have ambition, you can achieve what you wanted.
Alors moi, en venant au Cameroun, en quittant le Congo, j'étais dégoûté complètement. Je n'ai pas voulu laisser aucun de mes enfants. C'est ainsi que j'ai négocié avec leur maman. Et j'ai pris celui qui avait 4 ans et celui qui avait 6 ans. Les autres, je les avais fait fuir avant, sur le Rwanda. Bon, j'ai pris à tous mes risques. Celui de 4 ans et celui de 6 ans. Je ne voulais pas les laisser derrière parce que c'est la situation que je venais de vivre m'avait complètement découragé. Vivre pendant 40 ans dans un pays et puis après on vous considère comme rebelle, je ne sais pas. Parce que votre pays d'origine a des difficultés avec le nouveau gouvernement. Ok. Alors moi je me dis, je ne rentrerai pas. Plus derrière, je ne regarderai plus derrière moi.
J'ai deux enfants. Je ne savais pas que je pouvais, mais je m'étais dit que je pouvais les élever, etc. J'ai prié pour qu'ils ne tombent pas malades, c'est ça qui me hantait. Parce que je ne me vois pas à l'hôpital avec des enfants de 4 ans. Qu'est-ce que je vais faire? Après, j'ai récupéré les autres aussi pour venir au Canada.
I'm the host of today's show, Omar Salifu, and you're listening to Rendez-vous la Francophonie, stories about refugee integration in Edmonton, Alberta.
We personally kind of just had to grow up by ourselves and grow up really fast because it's not like our dad could have stayed at home with us all day and taking care of us like a 4 and a 6 year old. So my brother Jonathan really had to like step up, be the man of the family, take care of this whiny little kid that I was, and yeah, kind of like make food, clean the house, and then my dad would come check on us, and just yeah, that's kind of just how we had to grow up, through the faith that my dad had, the character that he has, and just the humility that he has. I am here standing before you, and he's putting us through school, always wanting us to strive for the best, always want us to, I don't know, be people that, I don't know, people that we're like proud of, people of character.
Lorsque les événements sont arrivés, je me suis vu devant l'obligation de recommencer. Et j'ai recommencé avec plaisir, avec bon cœur. Commencer avec bon cœur. Pourquoi? Parce que j'avais des enfants en bas âge, 4 ans, 6 ans et puis plus haut. Je me suis dit, mon rôle, c'est maintenant eux. Je dois leur donner la priorité. Je ne vais pas commencer à aller dans l'université pour revaloriser mon diplôme et travailler en tant que pharmacien. Je me suis dit, j'arrête. Je fais profil bas, mais je leur donne la priorité, c'est ça. Et je suis positif, hein, ne vous en faites pas. Les moyens que j'avais et que je n'ai pas, que je n'aurai peut-être plus, ne m'ont pas complexé. Parce que j'ai déjà l'expérience de la vie à partir d'être réfugié, d'être ballotté ici et là. J'étais équilibré dans ce sens que tout pouvait arriver. J'étais déjà préparé, j'avais déjà cette expérience-là.
You mentioned that he speaks 5 languages. Right. Among those languages is French.
Yes.
And technically Canada is a bilingual country.
This is true.
But when you came to Edmonton, a non-francophone
community, yeah.
What was that like?
I don't remember much because I was only like 4 years old, but I know that it was definitely hard for my father because... Yeah, he spoke French, but then not everyone here speaks French. And then there's only that little community, which I'm really proud of, that we've managed to obtain, which is like by Campus Saint-Jean, like the French university. And then there's Cité Francophone, there's Café Bicyclette. And like basically everyone in that building is bilingual and is proud to be French. And then just seeing like schools like Maurice Lavallée, Père Lacombe, and all these that are like just truly French, we wanted to continue that, I guess, that pride of being French, as well as just like how we fought for so many years just to have French as a second language. But personally, I don't really remember because I was young, but then it was also easier for me to pick up the language because like English is kind of like a local language in a way. Like you can kind of go outside and like listen to it, but then you can't really do the same for French. So I got to pick up on it quite fast with my brother. And then I guess with the circumstances that we also had to just kind of be my dad's translator because it was obviously hard for him to just like pick up on a new language being around like 60. It's not like, hey, I'm gonna learn a new language within like a year and then perfect it. So that allowed us to just help him out to the best of our abilities. We were basically with him everywhere to just, when he went to the supermarket, he was asking questions, where he was, when he had to renew his driver's license, when he was doing taxes and other things, like even on the phone, we, you know how like when you call like Shaw or something like that, or Bell or whatever, they only want to talk to like the owner of, I guess, that service, but we've helped him so many times that we kind of have like, we're like, if he's not there, we can answer all the questions and they can give us information. So we even have our only like secret code. So for example, if they're asking us like, hey, is this Gallican or is this Jonathan? We're like, yeah. And then we're like, you give them the code and it's like, okay. Because I don't know, he didn't really have, I guess, the opportunity to come to Canada at such a young age. So yeah, we were his translator helping out and everything. Even till this day, we still do that. And it has just allowed us to build a good relationship with our dad, but also learn how to do things on our own. Because honestly, not like, I don't know, I've heard like not many kids know how to like set up their own, payment bills directly to their, like say Shaw or like their provider, or how to set up a credit card and all these things. And like, we got to learn that at such a young age because our dad needed our help, but also he still does that even though he speaks English, but not everyone can understand. It's unfortunate. But my dad also sacrificed his English so we can keep our French, because honestly, in this city, it's really easy to lose your French because everyone speaks English. And even at French schools, we always had the tendency of speaking English, like even till this day. And I say I'm not really proud of it. When I'm at the university, I have all my classes in French and I'm still speaking English in the hallways. I'm literally in the cafeteria with like French writing all over me and I'm still speaking English. My books are in French and I'm explaining, like, let's say photosynthesis to someone in English. I'm like, what am I doing? But yeah, I'm glad that my dad made those sacrifices so I could keep this amazing language that we fought for so many times, so hard to have. And yeah, I stand before you proud French Canadian.
The reality of being Francophone in Alberta is often living life as a duality, being surrounded by Anglophone culture and language, but trying to still hold on to your Francophone language and roots. Adding on to that, for refugee families like the Bukis, cultural integration and adjustment are also hurdles in getting settled into Edmonton. One of the services that is offered for Francophone immigrants and refugees in Edmonton, Alberta, is Le Centre d'accueil et d'établissement. Established in 2003, the centre provides various services for social, professional, and economic integration. I interviewed Espérance Murikatete, a counselor with the center, to speak about the experience of welcoming new Francophone immigrants and refugees in Edmonton.
Ah, bonjour, mon nom c'est Espérance Murikatete et je suis conseillère ici au centre d'accueil. Ça fait 6 ans que je travaille avec les nouveaux arrivants. En tant que francophone, ils ont un défi de l'anglais. Donc, ici à Edmonton, il y a l'opportunité aussi d'apprendre l'anglais et pour leur famille aussi. C'est un peu difficile parce que tout se fait en anglais. Alors, c'est là où notre rôle est très important. On est là pour les accompagner et leur aider pour naviguer le système. Et ensuite, il y a les cours d'anglais qui sont disponibles pour les nouveaux arrivants. Il faut d'abord leur évaluation des niveaux d'anglais et puis ensuite ils vont faire l'école d'anglais. Et on voit justement qu'après une année ou quelques mois, ils s'en sortent et ils sont capables de s'intégrer, de chercher du travail et vivre comme tout un Albertain. Lorsque une personne nouvellement arrivée ici en Alberta, premièrement, il est découragé. Deuxièmement, il ne sait pas où commencer ou comment continuer avec le chemin. Mais en fait, durant cette période, c'est vraiment un peu sombre. Et si peut-être il n'a pas même une famille ou quelqu'un l'appui, on est là à appuyer. Mais on voit que toujours après quelques temps, ils s'en sortent. Ils ont déjà un travail, ils sont à l'école, les enfants sont à l'école. Donc, ils ont un revenu et après une année ou deux ans, ils sont bien établis. Ils n'ont même pas besoin de nous. Ils ne voient même pas. Donc, c'est vraiment... On a beaucoup d'histoires de succès. Donc, c'est quand même... notre boulot est très intéressant. Et parce qu'on voit quelqu'un qui entre dans ton bureau et il s'est en larmes. Mais après quelques temps, tu vois que tout ça passe et... il s'est bien établi. Donc, il y a beaucoup d'histoires de succès. Grâce à nos services, beaucoup sont servis et beaucoup sont établis sans problème.
Many times when I explain this story, not always the greatest, sometimes better than others, that he should write a book, and I honestly agree, because it's not every day that you can be like, oh yeah, my dad's been through this, through this, through this, through this, and this, and this. Not like I'm bragging, but like that he's here still being like a good citizen, doing the best of his abilities to raise his kids in this like amazing country, and then also help out others to the best of his abilities. I think the world needs to know about like just what, I don't know, what like a lot of the refugees have gone through, and how Canada has allowed them to just step aside from all that atrocities, all that chaos, all just the horror they've experienced, and kind of just start fresh.
Je tenais à ce qu'ils gardent cette langue-là qui est importante et qui est très riche. C'est un plus, pourquoi pas. Bien sûr, la tendance est de parler anglais, mais moi, à la maison, je n'ai jamais parlé anglais avec eux. C'est pourquoi mon anglais ne s'est pas développé, parce que je donnais la priorité au français pour que mes enfants soient francophones. À la maison, on parlait le français. Il faut toujours viser haut. Faut pas dire que parce qu'on est réfugié ou que l'on est dans un pays qui n'est pas le sien que on doit rester à l'arrière. Non. Sur la terre des hommes, il faut tailler sa place. Tout est possible. Tout est possible ici. Tout est possible. Toutes les portes sont ouvertes. Vraiment. Parce que moi. Parce que je vois mon passé avec ce que mes enfants ont et ce que j'avais. C'est deux mondes. Donc il faut qu'ils en profitent. Et construisent ce pays qui vous aime, qui est le vôtre, quoi.
That's it for today's program. I'd just like to extend a thank you to the Buki family, Galikon and Ephraim, for sharing their story with me. And also Le Centre d'accueil d'établissement for opening their doors to provide more information on immigrant and refugee settlements in Edmonton. I've been your host, Omar Salafu. Thank you so much for listening.
Thanks for joining us for this week's edition of Rendez-vous de la Francophonie, presented by La Fondation canadienne pour le dialogue des cultures, the National Campus and Community Radio Association, Canadian Heritage, and this station. To learn more about the RVF series and the National RVF Celebration, and to send us your comments, visit ncra.ca/RVF.